Donc juste pour commencer, qu'est-ce que la production pair? Donc en fait, on revient à la célèbre économiste Eleanor Ostrom, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2009, et qui s'est érigée contre la question bien connue de Garrett Hardin. Vous connaissez tous la tragédie des communs, c'est-à-dire quand on a une possession commune, les intérêts individuels vont la surconsommer, et l'intérêt individuel va primer sur l'intérêt commun. Et en fait, la contribution d'Ostrom, c'est-à-dire que ce n'est pas une tragédie du commun, c'est une tragédie de la gestion, du management. C'est-à-dire que c'est simplement qu'il n'y avait pas de structure en place, il n'y avait pas d'entente entre les participants, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de collectif, et que donc c'était simplement un problème de régulation, d'autorégulation. Et quand on a une bonne autorégulation, il n'y a pas de tragédie. Donc la production pair, la production collaborative, c'est l'auto-régulation des communs. Hein, et des communs en général. Bon, alors pour Ostrom, c'était des communs concrets, pratiques, hein, une rivière, des ressources de pêche, un champ, etc. Et évidemment, à l'époque d'Internet, on parle surtout des communs numériques, des communs digitaux, c'est-à-dire des ressources créées collectivement de manière transnationale par des communautés. Alors, voilà la liste de tout ce dont je ne vais pas parler. Donc, premièrement, la chose la plus importante, c'est évidemment la gouvernance, hein, l'autogouvernance. Donc, il y a eu énormément de recherches. Moi, j'ai commencé par ça. Je veux dire, j'ai écrit un livre il y a 10 ans maintenant sur la gouvernance, l'autogouvernance dans les communautés en ligne. Les institutions, les règles, les normes, etc. Bon, ça, on n'en parle pas, j'ai pas le temps. Les connexions entre la production pair et les mouvements sociaux, de même, je n'en parlerai pas. Je vous enjoins à lire le chapitre que j'ai coécrit avec Sébastien Broca dans le handbook, puisque c'est sur social change, donc c'est justement sur les connexions entre la production collaborative et les différents mouvements réformistes, révolutionnaires, etc., qui s'y réfèrent. Un autre élément qui est plus gestionnel, c'est le scope, c'est-à-dire ce dont s'occupent les projets. Alors, est-ce qu'ils s'occupent de quelque chose de très réduit, ou est-ce qu'ils s'occupent de quelque chose de plus large? Est-ce que ça évolue au fil du temps, et en quoi est-ce que ça a un impact sur la gouvernance des projets? Donc ça, c'est un sujet très intéressant, et c'est un autre chapitre du handbook par quelqu'un qui... Alors, elle a un nom très difficile à prononcer, c'est Siobhan O'Mahony, qui est une professeure de gestion américaine, donc qui a travaillé sur... Par exemple, elle est assez connue, elle a parlé du rôle des boundary organizations. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les organisations liminales qui font la jonction entre les projets de logiciels libres, par exemple, et les entreprises. Donc, par exemple, les fondations, hein, qui permettent à ces univers de se rencontrer, à ces deux mondes de se rencontrer et de travailler ensemble. Je ne vais pas parler de Wikipédia, je ne vais pas parler des questions de motivation. Est-ce qu'elles sont externes ou internes? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'approbation de la communauté? Je ne vais pas parler de tout un tas d'études de cas, comme le biohacking, l'éducation, les makers, la cartographie, etc. etc. Je ne vais pas parler des questions féministes, un petit peu quand même pour la diversité, mais c'est un énorme sujet. Je voulais parler des bazars du Sud et de la réinvention de la peer production dans les bazars du Sud, de la réinvention du tinkering, mais j'ai oublié. Donc, mais je n'en parlerai pas non plus. Et finalement, je ne parlerai pas des deux chapitres les plus intéressants et les plus beaux du handbook, qui sont sur « Failures of peer design » et les licences. Je ne regarde pas les auteurs qui sont juste là. Voilà. Alors, la peer production comme un objet d'étude. Donc, on peut aborder ça de plein de façons différentes. On peut regarder les antécédents historiques, la constitution de l'objet, les connexions avec d'autres mondes, le rôle des promoteurs, hein, des gens qui font un peu l'article. Et puis ensuite, on peut aussi parler en termes de réseau ou en termes de champ. Je vais un peu parler de tout ça. Et je vais souvent revenir au paradoxe central qui est la relation au capitalisme, c'est-à-dire que c'est un objet qui est à la fois porteur d'un message post-capitaliste et en même temps qui est complètement intégré dans le capitalisme. Donc ça, c'est quelque chose que je vais explorer plus avant demain, mais je vais quand même en parler un petit peu aujourd'hui, puisque c'est quand même le paradoxe central de cet objet. Alors justement, il faut se positionner par rapport à son objet. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire, c'était en 2009. J'ai publié un livre chez Pluto Press, je ne pense pas qu'il était très connu en France, qui s'appelait Cyber Chiefs. À l'époque, j'étais assez intéressé par la métaphore des tribus. Des tribus comme une sorte de groupe non lié à un État et qui fait ses propres règles. Hein. Et bon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les anthropologues, parce que pour eux, une tribu, c'est quelque chose de très précis, et on ne peut pas parler de tribu quand on parle d'Internet, etc. Donc maintenant, je me réfère plutôt à la sociologie des organisations plutôt que de parler de tribu. Mais le point central est le même, c'est-à-dire l'autorégulation. Alors pourquoi j'en suis arrivé à m'intéresser à l'autorégulation? J'ai fait une thèse de doctorat il y a bien longtemps sur les Zines aux États-Unis, plus précisément dans la région de San Francisco. J'ai fait une ethnographie. J'ai interviewé une trentaine de producteurs de zines. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque, c'était de savoir comment est-ce qu'on gère les infractions. C'est-à-dire que s'il y a une sorte d'entente, de normes, quand on fait une transaction, on envoie 5 dollars ou on envoie 100 zines à quelqu'un et on attend que la personne vous renvoie enfin, bon, tout le monde comprend, un zine, c'est un petit journal underground sur un sujet très très précis. Hein. J'aurais dû préciser. Donc, comment gérer les personnes qui ne respectent pas le contrat social? Et donc, bon, la seule solution à l'époque, c'était de name and shame. On mettait leur nom, on disait cette personne-là n'a pas respecté le contrat. Et donc, ça m'avait bien intéressé de voir comment émergeaient des formes de régulation à l'intérieur des communautés. De là, alors j'ai eu une période un petit peu où j'étais un peu loin de l'université. Je suis revenu au début des années 2000, milieu des années 2000, et c'était la grande époque des weblogs. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des énormes parallèles entre l'univers des zines et l'univers des weblogs. Et j'ai publié un article, enfin, des proceedings d'une conférence, justement, où je faisais une analyse comparative. J'ai fait une trentaine d'interviews de personnes qui faisaient des weblogs, et puis j'ai fait des parallèles, enfin, j'ai mis en parallèle ces deux mondes, et j'ai vu qu'il y avait des grosses différences entre les deux, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'était toujours cette idée de l'autorégulation. Et de là, je suis passé à m'intéresser au logiciel libre, donc particulièrement au projet Debian. Je ne sais pas si tout le monde connaît Debian ici. Oui. Donc pourquoi Debian? C'est parce que c'est un des projets les plus établis, avec toute une structure institutionnelle très riche, un contrat social, des élections annuelles de chefs de projet, etc., etc. Et bon, évidemment, Wikipédia. Donc j'ai publié ce livre en 2009 qui faisait une sorte de présentation de l'interaction entre l'autorité et l'autonomie. Comment avoir des formes d'autorité alors que tout le monde est volontaire, donc on est censé être autonome. Donc comment construire une sorte de processus de contrôle en quelque sorte. Et je me suis référé à la sociologie de Weber, évidemment, que j'ai réinterprété. Et j'ai publié ensuite un ou deux articles là-dessus dans Information Communication Society. En particulier, je recommande plutôt l'article qui s'appelle Hacking Weber plutôt que le livre, puisque il est plus riche et surtout, je me réfère plus aux tribus. Donc, c'est ça surtout. Voilà, différentes formes d'autorité. L'autorité charismatique des hackers qui sont parfaites, qui sont très, qui ont une connaissance technique parfaite, etc. L'autorité collective, etc., etc. Bon. Je vais pas en parler. Donc, à partir de là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. J'étais donc en Australie et puis je suis allé en Angleterre pour un peu promouvoir mon bouquin. J'étais à Oxford Internet Institute, où j'ai rencontré deux jeunes Allemands, dont un qui s'appelait Christian Penzel, qui avait organisé cet événement. Et après, je suis allé à Manchester, où il y avait la quatrième conférence Econux. Est-ce que tout le monde a entendu parler de Econux? Ça m'étonnerait, mais non. Alors, c'était des ultra-gauchistes allemands qui pensaient que Linux, donc Econux, c'est Linux Economy en allemand, donc l'économie Linux, allait révolutionner le monde et que c'était une sorte de prémisse à un univers post-capitaliste. Et en fait, c'était très agréable parce que c'était une conférence vraiment très riche. Il y avait des universitaires, des praticiens, des activistes. C'était très sympathique, il y avait une ambiance vraiment chaleureuse et je m'y suis bien senti. Ça m'a donné envie de faire quelque chose. Et donc, j'ai proposé de faire un journal à cette conférence. Et qui s'appelait au début Critical Studies in Pre-Production. Donc on a sorti un numéro sur le serveur de Knux. Et après, bon, il y a eu des différences de vue avec les gens de Knux qui n'avaient pas tout à fait la même conception de la peer review. Hein, ils ne comprenaient pas pourquoi, par exemple, les reviewers devaient être anonymes au début. Donc pour eux, il fallait que tout soit transparent tout le temps. Et donc j'ai eu beau argumenter que bon, il fallait quand même protéger un petit peu l'anonymité des reviewers pour qu'on ait des bonnes reviews. J'ai décidé de partir en fait de Knux, enfin de partir de leur serveur. J'ai jamais vraiment été membre de Knux. Et donc on a le Journal Pre-Production a commencé en 2011. Donc il y a eu 13 numéros jusqu'à présent. Moi j'en ai édité 4. Il y a d'autres personnes. Il y avait Johan Soderberg qui a joué un rôle très important aussi. Francesca fait partie pendant un certain temps. C'est une structure où des éditeurs se proposent pour faire des numéros sur un sujet thématique. Et donc après, alors le dernier, c'était sur Open Access en particulier, hein, qui est sorti en mai de cette année. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et tout récemment, donc, je travaille sur ce handbook. Alors, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai mis cette image. Donc en fait, ça, c'était... un document de travail interne, hein, mais donc je l'ai mis petit, comme ça vous ne voyez pas, mais c'est tous les chapitres et le statut. Alors les rouges, c'est pas bien, ça veut dire que les rouges, on ne les a pas, ou que les gens n'ont pas donné leur chapitre. Et donc c'est avec ce Christian Penzel que j'avais rencontré donc, à Oxford il y a 10 ans, donc, et Sophie Toupin, qui est une chercheuse canadienne qui travaille sur les questions de genre et de production postcoloniale, elle travaille en Afrique du Sud, entre autres. Et donc c'est un gros bouquin, il y a une trentaine de chapitres, donc la structure, je n'ai pas mis tous les chapitres, mais la structure est grosso modo, au départ on explique les concepts les plus importants, les institutions, l'économie politique, la culture, ensuite les conditions, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la production paire, donc il faut des promoteurs, des prophètes, il faut des licences, quelles sont les conditions, ensuite des cas, alors par exemple la cartographie, le biohacking, etc., ensuite, les conflits. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conflit? Donc, les questions, disons, de relations avec l'État, les relations avec les mouvements sociaux. Et finalement, la dernière partie, c'est il y a des interviews avec des pratiquants. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, ça devrait sortir l'année prochaine, normalement, si tout va bien. Voilà. Donc, ça, c'est un peu mon positionnement. Alors, maintenant, j'en reviens aux origines de la production paire, de la production collaborative. Et un mot qui va revenir souvent, c'est le terme de morale. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une question de production, de science, d'échange, c'est aussi une question de morale. Alors j'en reviens donc à cette définition. Donc c'est une vision de la création scientifique qui est totalement différente de la définition, par exemple, de Bruno Latour sur les interactions entre une communauté et son environnement, etc. C'est vraiment... uniquement individuel, donc c'est peut-être un peu naïf, mais je pense que ça convient bien à l'objet. Alors la citation de Merton, « The communism of the scientific ethos is incompatible with the definition of technology as private property in a capitalistic economy. » Donc c'est l'idée que pour produire de la connaissance, on est obligé d'avoir une transparence et un échange parfait avec les autres, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de restrictions sur l'accès à la connaissance. Et donc les valeurs principales de la création scientifique, ce sont donc l'universalisme, le désintéressement, parfaitement, le scepticisme généralisé et le communisme qui a après, évidemment, dans le climat de la chasse aux sorcières, changé vers le communalisme. Donc l'idée qu'on doit partager la connaissance. Donc c'est un peu un fil que l'on retrouve après dans toute la création autour du hacking, hein, qui est donc quelque chose que vous connaissez parfaitement, et je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup, mais pour aller très très rapidement, vous savez tous que dans les années 60, au MIT, il y avait un club de modélistes qui faisait des trains, hein, des petits trains, et que c'est à partir de là qu'on a commencé à parler de cette idée de tinkering, de hacking, de changer, de trouver des solutions élégantes au problème. Donc un hack, c'est une solution élégante à un problème. C'est aussi l'époque où a commencé le logiciel Unix. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Unix? Ça va être le verre froid. Voilà, donc. Unix est intéressant parce que c'est un système qui a une structure modulaire. Okay, donc tous les éléments doivent pouvoir s'imbriquer les uns avec les autres. C'est pas tellement un système hiérarchique. Cette conception modulaire est évidemment essentielle pour un projet collaboratif, puisque ça veut dire qu'on peut, du moment qu'on est d'accord sur le protocole général, il faut signer sur quelque chose. Du moment qu'on est d'accord sur le protocole général, tous les éléments peuvent s'imbriquer. On peut rajouter facilement de nouveaux éléments. Ok? Je pense que la caméra est en train de prendre une... voilà. La structure modulaire, c'est quelque chose qui a été adopté après par tous les logiciels libres en général.
En fait, ça valait la peine. T'inquiète,
on sait que tu es là.
D'accord. OK. OK, donc... Donc bon, cette question de la modularité, elle est essentielle, en fait, c'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, donc c'est quand même, on sait très bien quelle est l'origine de l'Internet. C'est une origine qui est elle-même duale, puisque c'est un objet militaire censé résister à une attaque nucléaire, donc on a un réseau distribué, mais qui en même temps naît au moment de la contre-culture. Donc il y a cette dualité, c'est-à-dire qu'on a en même temps... l'industrie des armements, l'industrie militaire et cette idée de libération personnelle par l'ordinateur. Donc je vous renvoie aux travaux bien connus de Fred Turner en particulier hein, sur la liaison entre le Whole Earth Catalog de Stuart Brand et la première communauté en ligne donc des années 80, le WELL, donc Whole Earth Electronic Link. Hein, donc ça vient directement du Whole Earth Catalog qui était une sorte de catalogue de technologies DIY pour les hippies. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que donc le Internet Engineering Task Force qui a été lancé donc vers 69, 70, 71, j'ai pas la date exacte en tête, excusez-moi. Comment est-ce que ça marchait? Donc ça marchait par ce qu'on appelait des RFC, Requests for Comments. Ok? Donc plutôt que de dire voilà, on va faire ce protocole et c'est la meilleure solution, on disait j'ai cette suggestion. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, certains disent que parce que ceux qui faisaient ça, ceux qui étaient à l'origine de IATF, ce n'étaient pas des profs, c'était des master students, c'était des jeunes. C'était aussi l'histoire de la contre-culture, mais c'est toute cette idée qu'il n'y a pas d'imposition. Simplement, on veut trouver la meilleure solution. Et comment trouver la meilleure solution? Il faut demander à la communauté. Donc, c'est très important, cette idée de review de la communauté. Donc, bon, dans les années 80, vous avez bien sûr la création de GNU par Richard Stallman, de la Free Software Foundation, de GPL, donc le General Public License. Hein, vous connaissez bien les quatre libertés du GPL, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Et ensuite, dans les années 90, avec le développement de l'Internet de masse, on a donc un moyen de communication et d'organisation qui permet de créer en même temps, collaborativement, pour Stallman, il fallait s'envoyer des disquettes. Hein, je veux dire, c'était assez coûteux et fatigant. Il fallait vraiment vouloir le faire, parce qu'avec Internet, on peut contribuer en temps réel. Et bon, c'est évidemment lié aussi à la personnalité de Linus Torvalds, le fondateur, charismatique. Mais c'est aussi vraiment à cause de la dissémination d'Internet. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis PageRank aussi? PageRank est bien sûr le logiciel... de recherche de Google, de Larry Page et Sergey Brin, c'est parce qu'à l'origine, PageRank, c'est quand même fondé sur des principes bibliométriques. Hein, c'est l'analyse de réseau, donc c'est les sites qui ont le plus de connexions, le plus de citations, le plus de votes, ceux qui reçoivent des liens de ces sites-là vont être placés en haut des moteurs de recherche. Donc ça, c'était la première incarnation de PageRank. C'était vraiment une incarnation scientifique. C'était vraiment l'autorité du réseau. Évidemment, on sait bien que PageRank a évolué depuis et que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus personnalisé, fondé sur machine learning, donc sur les actions précédentes, etc. Et que c'est quelque chose qui n'est plus scientifique en termes de... comment dire, de résultats universels ou de résultats le plus large possible. Alors, les principes de base du hacking sont donc ceux qui ont été définis par Stephen Levi dans son livre de 84, Hackers, Heroes of the Revolution, enfin, quelque chose comme ça. Donc, pas de, de critères bogus, donc pas de mauvais critères comme l'affiliation, le pouvoir, le genre, simplement, en termes habermasiens, l'autorité du meilleur argument. Hein. La meilleure solution, c'est celle qui doit remporter, qui doit être adoptée. Et deuxièmement, ce qui compte, c'est l'intégrité du produit. Donc ce n'est pas les considérations financières, commerciales, c'est vraiment le produit le plus économe, le plus dense, en quelque sorte, et donc celui où il y a le moins d'erreurs. Donc vous connaissez tous la formule de Eric Raymond, « With enough eyeballs, all bugs are shallow hein, ». Si on regarde, suffisamment de personnes regardent un problème, ils vont forcément trouver les erreurs, et donc plus on accroît le nombre d'intervenants, mieux c'est. J'ai pas le temps, mais en fait, bon, c'est pas forcément vrai, ça marche pas à tous les coups, parfois on dépense énormément de ressources qui seraient mieux attribuées de manière un peu plus directive, mais enfin bon, j'ai pas En tout cas, ça marche, vu ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que les entreprises ont adopté le modèle de développement open source. Alors, évidemment, de qui on parle? On parle de mâles blancs, etc., etc. Donc, j'aurais pu en mettre d'autres, hein, mais donc Richard Stallman, Free Software Foundation, Yochai Benkler, donc c'est un professeur de droit qui a eu un rôle très important dans l'émergence de la peer production, et Michel Bowen, c'est un Belge qui habite en Thaïlande, mais qui voyage beaucoup et qui a donc lancé la P2P Foundation dans les années 2000. Et ces trois personnes ont donc eu un rôle déterminant dans l'émergence du champ ou du réseau de la peer production. Alors ça, c'est un graphe que j'ai pris dans un des chapitres du livre. Donc ça montre, en fait, c'est un n-gram de Google, ça montre l'émergence des recherches sur peer production, peer-to-peer, etc. Donc je pense que c'est trop petit pour que vous voyez, mais en rouge, c'est peer production. Donc là, ça va de 1950 et ça commence à monter en 95. Donc en 95, la courbe verte, c'est P2P. En 2000, peer production. Et en bleu, c'est P2P. Donc vous voyez qu'à la fin des années 90, ça explose complètement. Okay? Alors à quoi est-ce qu'on peut attribuer ça? Évidemment, c'est... deux choses en particulier, mais bon, principalement le torrenting, hein, Napster, donc c'était un logiciel qui permettait d'échanger des fichiers musicaux particulièrement avec une structure distribuée, c'est-à-dire que chacun mettait en commun son ordinateur et qu'on on échangeait les fichiers de manière complètement décentralisée. Il y avait aussi, et bon, pour la communauté universitaire, c'est évidemment l'influence de Yochai Benkler, qui a publié en 2002 un article qui s'appelait Coase is Penguin. Donc Coase, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la logique de marché vis-à-vis de la logique bureaucratique. Et donc Benkler affirme que ce qu'il appelle Commons-Based Peer Production, donc CBPP, Commons-Based, donc basé sur le commun, a une efficacité productive supérieure au marché et aux entreprises. Donc ça, c'est un point principal, mais il y a un autre point qui est le point, donc je reviens à l'économie morale, que de travailler collaborativement avec les autres, d'après Benkler, ça fait une sorte de faisceau, de champ, de micro-action non exploitative, morale. On traite les autres avec... encore une fois, c'est complètement nécessaire. Si on veut que les autres travaillent avec vous, il faut les traiter de manière morale. Et donc, on voit l'émergence d'un modèle normatif qui est pour le bien de l'humanité. Bon, ça paraît assez naïf comme ça, mais c'est la motivation quand même de beaucoup de gens. Hein. On a fait des interviews il y a quelques années sur Debian, et on a bien vu que ça restait quand même assez important pour les participants. Alors, donc, j'en reviens au paradoxe. Donc, le post-capitalisme, dans les années 2000, il y a vraiment eu un engouement de la part de beaucoup de penseurs, d'écrivains, de chercheurs sur cette possibilité quasi utopique hein, d'un imaginaire social post-capitaliste. Donc que ce soit les Allemands de Canucks, que ce soit Michel Boens, que ce soit André Gorz en France, que ce soit les penseurs autonomia en Italie comme Mario Tronti et plein d'autres, ils ont tous eu cet enthousiasme hein, puisqu'ils ont vu que la GPL en particulier était très opposés aux licences propriétaires, et donc ils se sont dit, ah bah oui, si on s'oppose aux licences propriétaires, forcément ça veut dire qu'on est contre la propriété privée, donc on est pour le communisme, donc on est pour une société basée sur l'échange, sur les principes de à chacun doit revenir ce dont on a besoin, etc. etc. Bon, une société future qui dépasserait un peu le capitalisme. Bon, le paradoxe où on est maintenant, c'est que cette promesse, elle existe toujours pour certains, mais qu'en même temps, on voit bien que certaines pratiques ont été criminalisées et n'existent plus. Le torrenting, Napster, ça a été écrémé complètement. Donc certaines pratiques P2P ont été interdites, de fait, en revanche, d'autres sont toujours permises. Donc que ce soit la création du logiciel libre, que ce soit Wikipédia qui a été boosté par Google pour faire du trafic, etc. Donc ces dimensions-là en quelque sorte, ne remettent pas en question le contrôle de l'infrastructure globale, cette infrastructure de contenu, on pourrait l'appeler, elle est autorisée. Par contre, l'infrastructure, technique globale, elle est interdite. Alors, on en vient à cette question de la récupération. Donc je vais citer très rapidement un article de Alessandro Delfanti et Johan Soderberg qui parle de la récupération, en quelque sorte, du hacking, enfin du logiciel libre, par l'industrie, par les firmes. Donc vous voyez, la deuxième a débordé la boîte. Je pense que c'est assez clair, hein, il y a différents types d'intégration entre les deux parties. Je vais juste parler un tout petit peu de la troisième, puisque c'est vrai qu'on voit bien qu'aujourd'hui, cette question du hacking, donc je ne sais pas si vous vous rappelez dans le résumé de l'intervention, j'ai cité, je crois, ikeahackers.com. Hein, donc c'est vraiment... IKEA, maintenant, ont un site où on parle de hacking, quoi. C'est vraiment... Ça montre à quel point on a atteint le degré zéro, quoi, quand IKEA devient un repère de hackers. Et évidemment, ça rejoint la logique bien connue du fait qu'il faut déléguer à la sphère privée, à la sphère domestique, à la sphère individuelle, des questions qui, autrefois, étaient du domaine du collectif de l'État. Hein. Donc c'est toute la thématique du néolibéralisme, en quelque sorte. Et le hacking rentre bien là-dedans, puisqu'on peut dire, on va vous donner, vous avez les outils, maintenant, à vous de vous débrouiller, et puis nous, on se retire et on investit moins dans la sphère publique. Okay. Donc je pense que c'est à peu près le sens de cette troisième partie qui, évidemment, se réfère aux travaux de Boltanski et Capello sur le nouvel esprit du capitalisme. Bon, je pense que ce n'est pas la peine de s'étendre là-dessus. En revanche, je vais m'étendre très longuement sur la prochaine slide, puisque c'est un article très intéressant que j'ai publié moi-même. C'est une autre façon d'approcher la même question, en quelque sorte. Hein. Donc c'est... quelle est la relation entre les entreprises privées et les entreprises, enfin les projets communautaires? Donc il y a une grille d'interprétation en termes de gouvernance de l'activité, est-ce que la gouvernance est centralisée ou décentralisée? Et ensuite il y a la logique institutionnelle, entre guillemets, qui gouverne les actions. Donc est-ce qu'il y a une logique commerciale, financière, ou est-ce qu'il y a une logique communautaire? Donc je pense que c'est assez clair, hein, dans le premier cadran, donc en haut à gauche, vous avez les entreprises, tous les salariés, hein, on va dire, c'est le domaine du salariat. En dessous, donc, c'est les travailleurs indépendants, les artisans, ceux qui font des travaux courts, des freelance, etc. En haut de la colonne de droite, donc, on a la co-création. Donc, par exemple, telle entreprise lance un appel à projet, à contribution. On va avoir, on pourrait aussi bien mettre, par exemple, la sharing economy, hein, là-dedans. Donc vous avez, je ne sais pas si c'est juste là, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, donc je retire ce que je viens de dire, je ne sais pas si ce serait au bon endroit. Mais la presumption, donc vous avez la possibilité de contribuer à un processus industriel ou créatif, mais le contrôle de ce qui va apparaître au produit final est centralisé. Ce n'est pas un processus communautaire. Et finalement, en bas, vous avez donc le travail domestique, travail à la maison, et les associations volontaires. Hein, donc dans les années 70, on parlait de collectivist organizations. Vous avez des travaux de Rothschild Witt qui sont excellents là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des mouvements entre les différents cadres. Vous pouvez avoir des personnes qui commencent comme des hobbyists, comme des volunteer associations, et ensuite qui vont aller dans la sphère du freelance, et ensuite qui vont créer une firme. Par exemple, Google ou les gens qui font des jeux vidéo, c'est exactement ça. Vous pouvez avoir aussi, dans l'autre sens, des entreprises qui vont faire du travail domestique. Enfin bon, il y a différentes façons de voir ça, mais c'est une façon un petit peu de conceptualiser les relations entre les différentes sphères. Alors, maintenant, je vais faire un petit teaser pour demain. Très rapidement, Olivier, sans m'étendre. Donc, la relation entre les firmes et la production. Les firmes ont complètement adopté l'open source, pas free software, mais open source. Ce qu'on a vu maintenant, donc j'étais en recherche de terrain il y a un mois à Lyon pour le European Open Source Summit, organisé par la Linux Foundation, et ce qu'on a trouvé, c'est que c'était pas seulement les entreprises de technologie comme Google, etc., qui ont maintenant des open source program offices, hein, interne, ce sont même des compagnies comme Sony qui sont là pour faire la jonction entre les projets d'un côté et l'entreprise de l'autre. Donc pour faire du prosélytisme dans l'entreprise pour le bénéfice qu'il y a d'utilisé les licences open source et ensuite pour vanter auprès des projets le bénéfice qu'il y a à travailler avec ces entreprises. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement intégré et c'est assez nouveau. C'est-à-dire que ça fait vraiment pas très longtemps, ça fait 2 ans que ça existe à ce point-là. L'année dernière, donc en 2018, Google est passé pour son logiciel interne de Ubuntu à Debian. Microsoft a acheté GitHub et le source code de Linux était produit par 85% par des employés. Un élément qui est moins connu mais qui est aussi très significatif, c'est que Microsoft a rejoint le Open Innovation Network, qui est une sorte de consortium de défense des patents et qui permet de résister aux attaques un peu futiles sur les patents. Alors, je ne me rappelle plus comment on dit patent, mais je suis sûr que Ksenia va pouvoir me le dire.
Brevet.
Les brevets, oui, pardon, c'est vrai. ils ont résisté. Microsoft a refusé. Enfin, Google et Apple, ça fait des années qu'ils sont là-dedans, mais Microsoft avait toujours résisté. Et là, maintenant, Microsoft a rejoint. En fait, s'est lancé dans le bain avec les autres entreprises qui ont adopté adopté ce open source pour protéger Linux. Donc, c'est assez significatif. Je mets une slide très rapide sur le projet de recherche qu'on fait actuellement, enfin un élément du projet de recherche. Donc on regarde les commits sur GitHub. Ah non, alors je me suis trompé. Donc ça c'était la slide d'après. Donc là je mets par contre une autre slide sur un article qui vient d'être accepté dans New Media and Society, donc, qui est basé sur une approche néo-institutionnelle en quelque sorte de Debian. Donc on a fait un sondage de Debian avec énormément de réponses puisque c'était organisé avec Stefano Zaccheroli et d'autres qui faisaient partie de Debian, et on a aussi interviewé des Debian developers et on a vu que on a pensé que le mélange dans Debian des logiques commerciales et institutionnelles requérait une forme de légitimation, c'est-à-dire que ça n'allait pas de soi de mélanger comme ça les deux logiques, et qu'il fallait aussi des mécanismes pour faciliter la coopération. Et donc on a décidé qu'il y avait deux phases, enfin on a vu qu'il y avait deux phases de légitimation. La première qui est basée plus sur la conception traditionnelle du hacking, qui est sur l'autoréalisation, on s'éclate, on fait un super code. Et en fait, elle vise à éliminer complètement la distinction entre le travail commercial et le travail communautaire. Du moment que je fais du code qui est super, ce n'est pas important où je suis. Okay ? Et la deuxième, qui est beaucoup plus récente, elle vise en fait à professionnaliser les rapports à l'intérieur de Debian par l'intermédiaire de nouvelles structures, où là, il y a une sorte de normativité qui s'instaure. On ne doit pas insulter les gens, par exemple, quand on travaille avec eux, parce que bon, ce n'est pas pro, alors que normalement, dans le logiciel libre, bon, on peut dire ce qu'on veut. Donc bon, La question de la participation, de la diversité, c'est évidemment quelque chose qui est très important. Et qui a le temps de faire de logiciels libres, qui a l'opportunité de faire de la participation dans des projets volontaires, évidemment, c'est une question de société, une question d'accès. OK. Alors, voici maintenant le projet. Donc, très rapidement, donc le nombre de commits. Donc, on regarde, en fait, on collecte les adresses e-mail des participants. Et quand c'est at Microsoft ou at Google ou at Debian, on considère que ce sont des employés. Et donc, on peut voir à quel point les projets sur GitHub sont soutenus par les entreprises. Donc, vous voyez, première colonne, c'est le nombre de commits faites par des employés. Deuxièmement, c'est le nombre total de commits. Et donc, ensuite, la proportion de commits faites par des employés. Donc, vous voyez, par exemple, pour Linux, 73% des commits à GitHub sont faits par des employés d'entreprise. Bon, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire sur GitHub. Tous les projets ne sont pas sur GitHub. C'est toujours une entreprise privée, etc. Bon, je développerai tout ça, évidemment, demain. Mais c'était juste pour vous montrer un peu dans la direction dans laquelle on va maintenant. Alors, je reviens à la question du champ. Est-ce qu'il faut constituer un champ ? Pourquoi constituer un champ ? Alors, et déjà, quelle est la différence entre un réseau et un champ ? Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Un champ, en fait, c'est bon, c'est très, c'est pas uniquement bourdieusien, mais c'est un petit peu bourdieusien. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus. Par exemple, il y a eu un bouquin qui est sorti en 2012 des États-Unis qui s'appelle A Theory of Fields par des gens qui travaillent surtout sur l'analyse sociale des réseaux d'un côté, donc Neil Fleckstein, et sur les mouvements sociaux de l'autre, McAdam. Et eux, ils parlent de Strategic Action Field. Donc l'accent n'est pas tellement mis sur l'habitus, mais sur l'action. Et quel type d'action permet d'enrôler des gens dans un mouvement ? Alors, je vais illustrer la différence entre le réseau et le champ de la façon suivante. Tout le monde sait qu'en France, le CNRS est plus prestigieux que l'université X, l'université de Besançon. Hein. Donc, tout le monde sait ça. Et je suis désolé s'il y a des gens de l'université de Besançon. Vraiment, c'est un, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Besançon. Bon, c'est plus psychanalytique. Mais bref. Tout le monde sait qu'il y a une différence en termes de ressources, en termes de moyens, en termes de prestige. Okay ? Donc ça, c'est la constitution. On sait qu'il y a une division de ressources entre ces deux institutions. Mais ça n'empêche pas qu'un membre du CNRS et un membre de l'Université de Besançon pourraient collaborer ensemble. Okay ? Donc il peut y avoir un réseau entre les deux. Okay ? Il peut y avoir une connexion. Mais le champ, il existe même s'il n'y a pas de connexion. Ok, est-ce que je pense qu'on est, ça va ? Bon. Alors nous, on a fait j'ai fait une petite, un présupposé, c'est-à-dire qu'il y a, une division entre, d'un côté, donc dans le champ, si on veut vraiment constituer un champ, si c'est utile, donc d'un côté, ceux qui sont plus du côté business, on va revenir à cette division entre l'efficacité, hein, et de l'autre, le côté moral, post-capitaliste. Donc, j'ai fait une analyse de réseau, donc c'est trop petit, mais en fait, j'ai utilisé un logiciel avec mon collègue de Australian National University qui s'appelle VoiceOn, Virtual Observatory for the Study of Online Networks. Donc tout simplement, on collecte une liste d'organisations, on prend leur URL, on les injecte dans la machine, on trouve d'autres organisations, on les réinjecte et comme ça, on construit un réseau. Le réseau, en général, il est trop dense, hein, on peut pas, il y a tellement de connexions. Donc, c'est un force-directed graph. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire qu'il y a une tension entre les nodes. Tous les nodes sont éloignés les uns des autres, mais s'ils ont beaucoup de connexions, ils sont rapprochés. Donc, en général, on peut voir des groupements, des clusters. Et la taille des nodes, elle dépend de du nombre de connexions qui vont vers les nodes, donc de in-degree. Hein, en social network analysis, on parle de in-degree et out-degree. Et tout simplement, en rouge, c'est com, bleu, c'est org, en vert, c'est gov, etc. etc. Bon. Comme c'est un réseau qui est beaucoup trop dense, on le réduit et on montre que ceux qui ont un in-degree, donc des connexions vers eux, au moins 5 connexions. Donc, ça veut dire des gens qui sont au moins connectés, enfin qui ont un certain degré de connectivité. Et donc on réduit comme ça. Et là, ça permet de voir en plus les noms. Au milieu, vous avez Peer-to-Peer Foundation, Cyber Harvard, donc Benckler et Michel Bowens. Il y a Twitter qui est en rouge. Il y a le blog de la Peer-to-Peer Foundation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi pris par exemple, il y a GitHub, il y a SSRN, il y a différents intervenants. Il n'y a aucune entité business. Il y a vraiment, ça prouve un peu notre hypothèse. On a mis certainement l'accent sur. On a mis des institutions, des gens qui faisaient de la recherche et des activistes. Et c'est vraiment ce réseau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune connexion avec ceux qui font du business, de l'efficacité. C'est vraiment un réseau complètement indépendant, quoi. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'assez autonome. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? Pas grand-chose. Alors voilà un petit clin d'œil. Hein. George Bernard Shaw, vous savez, il a dit ça. Et moi, on pourrait dire deux, c'est qu'un deux. Bon. Est-ce que ça fait vraiment utile de... Non, tout ça pour dire que moi, j'ai fait beaucoup d'analyses de réseau, mais que quand on parle de peer production, c'est aussi important de faire un peu de pratique et d'essayer de mettre en pratique les principes. Alors, je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Je vais me rappeler. Encore 5 minutes. Ouais.
Tranquille.
D'accord. Alors, quels sont les principes à mettre en pratique ? Donc ça, j'ai vraiment fait ça très rapidement, hein, mais je pense que si vous avez d'autres idées, on pourrait en rajouter. Hein, donc, être aussi transparent que possible, d'avoir des relations, bien sûr, morales, hein, de ne pas avoir de domination, d'exploitation, et puis de ne pas avoir de critères bogus. Et... tant qu'à faire, essayer de réduire l'impact environnemental. Donc, est-ce que je devrais dire ça en personne plutôt que par téléconférence de l'UPI de l'Université de Canberra ? Tout à fait, la contradiction est humaine, bien sûr. Donc, j'assume. Alors, j'en reviens au journal de Peer Production, puisque c'est ma pratique dans cet univers. Toutes les décisions importantes sur la gouvernance sont décidées collectivement sur une liste email sur laquelle n'importe qui peut se joindre et qui est public. Okay, donc il y a une autre liste privée pour les éditeurs qui sert de temps en temps pour quand on veut lancer un nouveau numéro. Bon, on ne veut pas forcément discuter publiquement avec les gens qui vont le faire ou pas le faire pour ne pas les embarrasser. N'importe qui peut rejoindre le collectif. Hein, il suffit juste d'être proposé par quelqu'un et de dire sur la liste pourquoi on veut se joindre au collectif. Et si personne n'objecte, au bout d'une semaine, on est membre. Et puis surtout, on a un système de peer review qui est assez unique, puisqu'on publie non seulement les reviews, c'est-à-dire les commentaires des examinateurs, je ne sais plus comment on dit en français, ce qui existe dans d'autres journaux, hein, d'autres journaux font ça, mais on publie aussi la première version de l'article. C'est-à-dire que, on peut voir, parce que c'est quelque chose que... dont je me rends compte de plus en plus, c'est vraiment très intéressant quand on publie dans un journal scientifique, l'impact des reviews est énorme. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui vous oriente vers telle direction, ça change complètement l'article. Ça, c'est un autre article, vraiment. Et c'est quelque chose... Et ce que je trouve triste, c'est que ce travail qui est très important de review, il n'est pas du tout reconnu, puisque c'est anonyme. Certaines revues publient le nom des reviews, etc., mais on ne sait pas vraiment... Donc dans le journal Peer Production, les reviews peuvent rester anonymes. Hein, je veux dire, on publie la reviews, mais ce n'est pas forcément nommé. Mais s'ils le choisissent, ils peuvent être nommés. Comme ça, on peut voir le travail qu'ils font. Et je trouve que c'est bien de récompenser, même de manière assez symbolique, ce travail qui est très, très important. Je voulais aussi un autre aspect dont je voulais parler, c'était l'open access. Dans le dernier numéro, il y a un article très intéressant par un groupe d'économistes scandinaves sur The Economics of Open Access. Et en fait, l'argument principal, c'est que dans la situation de profusion de journaux, on ne peut pas savoir quels sont les bons journaux. Tout le monde, on ne peut pas tout lire. Et donc, malheureusement, tant que les pratiques ne changent pas, la classification par l'autorité des meilleurs journaux, ça reste un signe de qualité. Okay. Donc tant que les pratiques ne vont pas changer des universités, des institutions, des sociétés savantes, la domination des journaux propriétaires des grandes entreprises comme Elsevier, etc., va rester, puisque ça reste un barème de qualité dans la profusion de publications. Alors, tout le monde connaît blockchain. Vous avez tous entendu parler de blockchain. Oui. Est-ce que tout le monde comprend comment marche blockchain? Alors, qui comprend comment marche blockchain? Bien, au moins la moitié, presque la moitié. Bon, je rigole, mais bon. Donc très rapidement, moi je ne comprends pas. Hein, donc, c'est un blockchain, c'est en quelque sorte une banque de données. Ou comme, imaginez les pages d'un livre, ok? Donc sur chaque page, en haut, il y a des informations qui vous permettent de dire où vous êtes. Un blockchain, c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on peut circuler, ajouter des informations de manière distribuée. Et créer, donc là j'ai un gros problème de, comment on dit en français, tokens, c'est des crédits, on va dire. Je ne sais pas comment dire en français, il y a un problème de langue. Ça permet de faire des procédures de vérification et de certification décentralisées. Et plus il y a d'intervenants, plus c'est sûr, plus il y a une assurance de réalité. Alors je vais me référer donc à un article au chapitre sur blockchain qui parle un peu de Bitcoin en disant, et donc ça, s'il vous plaît, ne le faites pas circuler si vous prenez des photos, parce que ce n'est pas encore publié. Bitcoin, c'est quelque chose d'assez contradictoire, parce que d'un certain côté, c'est une forme de peer production, mais en même temps, c'est quelque chose qui sert à rajouter de la scarcity, enfin, qui sert à rajouter de la rareté. Hein, c'est basé sur le profit individuel. Donc c'est complètement contradictoire avec l'éthique de la peer production. Et on voit bien qu'il y a certaines entreprises maintenant qui commencent à se servir de ça. C'est une façon de... Il faut aussi voir l'émergence de Bitcoin. C'était juste après 2008. Donc c'était un petit peu en réaction à la crise financière. Mais on voit bien que maintenant, c'est en train d'être complètement récupéré par les entreprises. Mais ça peut aussi jouer un rôle. Donc c'est ça un peu ce qui est intéressant. Donc là, c'est quelque chose que j'ai vraiment copié-collé. C'est un projet très intéressant, The World Food Program. Donc pour distribuer des ressources dans un camp de réfugiés syrien en Jordanie, ils ont utilisé un blockchain basé sur Ethereum. C'était une façon de ne pas avoir d'argent, parce que introduire trop d'argent dans une situation un peu chaotique, c'était dangereux. Et donc là, ça a été très utile. Et donc ça permettait, disons, je reviens toujours à cette dualité hein, de la peer production, donc on peut la mettre en pratique, ça peut être utilisé de manière complètement financière, commerciale, mais ça peut aussi être utilisé pour aider les gens. Alors, je vais arrêter de parler un petit peu, j'ai presque fini, je vous montre la vidéo de Precious Plastic, qui est donc un des projets que j'aime bien, et qui fait du recyclage. Donc je laisse les sous-titres, hein.
Ouais. Fresh plastic, and we don't like waste. So we made an entire plastic recycling workspace inside an old shipping container. It contains all the tools and machines to turn plastic waste into valuable things. Plastic is collected, shredded, and turned into something new, all inside the space.
Les petits nains.
This workspace can turn plastic trash into, let's say, beautiful bowls in any color, or strong wall grips. And with precise molds, it can make precise objects, or simply make any wall more beautiful. Make beams and construct a big tower, or start small with a jewelry collection. This workspace can be set up all over the world, from cities to tropical beaches to the middle of a landfill. Plastic trash goes in, valuable items out. We share step-by-step instruction videos and all the technical drawings to build this workspace yourself, open source, online, for free. Plus tutorials on how to make objects, a big community of helpers, plus an online marketplace to buy and sell products. So people from all over the world, like you, can set up a little recycle business. turning plastic waste into valuable things. Now you can set up a workspace like this yourself anywhere in the world and start recycling plastic. However, we're also aware it can be a bit overwhelming to set up something like this yourself. So we created a map where people can collaborate and find each other. Let others know you're ready to take action, whether it's promoting, funding, collecting, building, helping, selling. At all fronts, help is needed. Add yourself to a map, find each other, and start. Oh, and make sure to spread this message around. It might not be you that wants to get started, but it could be your friend, family, neighbor. So let's make sure they know they can. Visit preciousplastic.com for all the information.
Okay, alors. Donc pourquoi j'ai montré ça? C'est évidemment c'est un peu une synecdoque de tous les Fab Labs qui existent. J'aime bien le message, c'est-à-dire que si pas pour vous, ça pourra intéresser quelqu'un. Ça, je trouve ça vraiment très très bien. Mais il faut quand même tirer des leçons un peu concrètes. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une opportunité quand même en ce moment. C'est avec la crise climatique. Je pense que les gens dans le monde alors, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que si on regarde les gilets jaunes, la taxe sur les carburants? Bon. Je pense qu'il y a quand même une conscience qui émerge que la façon normale de faire les choses, non mon business, hein, ça marche plus très bien, évidemment. On est dans une crise environnementale sans précédent. Donc, ça ouvre des perspectives. Mais ces productions locales comme Precious Plastic sont complètement incapable de concurrencer la production de masse. C'est-à-dire c'est le prix de revient de tous ces objets est démesuré par rapport à la production de masse. Donc je veux dire, il faut quand même être réaliste. Et c'est ça un peu le... Donc je pense qu'il faut évidemment soutenir ce type d'initiative, mais en même temps, il faut se rendre compte des difficultés, public relations et pratiques, à dire que c'est une solution... À l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la relocalisation, la décentralisation, elle doit toujours être présentée comme, au mieux les deux, mais au moins viable économiquement. C'est-à-dire que ça ne doit pas être 10 fois plus cher qu'un objet du supermarché. Mais en même temps, cette question morale, elle est centrale. Je pense que c'est vraiment une question très importante. Et je pense que pour les jeunes générations, c'est quelque chose qui est de plus en plus important aussi. Il y a quand même des gros problèmes de régulation. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais au Bangladesh, la production d'énergie, elle est complètement décentralisée. C'est-à-dire que tout le monde, les gens ont accès à des panneaux solaires qui sont sur leur maison et ensuite ils peuvent constituer des réseaux d'énergie. La technologie, elle est disponible dans le pays où j'habite, en Australie, mais c'est interdit par la loi d'avoir des réseaux alternatifs d'énergie. On n'a pas le droit. Donc, il y a un problème de régulation. Et donc, je pense qu'il faut absolument des alliés. On ne peut pas changer les choses. Ça, c'est mon côté un petit peu prosélytiste maintenant. C'est impossible de changer les choses sans alliés, sans faire des connexions avec les différents acteurs sociaux, avec les partis politiques, avec les gouvernements, les syndicats, la société civile. Ce ne sera pas possible, ce genre d'initiative ne peut pas exister de manière effective et durable et changer les choses sans alliés, sans soutien. Si vous voulez connaître d'autres idées pour développer les communs, je vous réfère à un texte collectif qui a été publié 2 fois dans le journal Paper Production, Now the Commons, donc différentes initiatives pour l'éducation. Il faut absolument que des gens comme Eleanor Ostrom soient plus connus, soient introduits dans les cursus éducationnels des enfants, pour qu'on comprenne que les biens communs, c'est quelque chose de très important et que ce n'est pas uniquement une question de compétition avec les autres. Et aussi, je ne sais pas du tout quel est son statut en France, mais Paul Ariès avec cette idée du mésusage. Okay, donc simplement parce que quelque chose est libre et gratuit, ça ne veut pas dire qu'on peut s'en servir. Donc est-ce que quelqu'un qui a une piscine devrait payer les mêmes prix pour l'eau que quelqu'un qui veut juste boire avoir de l'eau. Bon, les biens communs et les biens libres devraient peut-être avoir différents prix en fonction de leurs usages, c'est ça. Et il y a d'autres propositions concrètes aussi dans ce texte, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Et bon, vous savez ce qui va venir maintenant, un petit rappel, évidemment. Demain, dans le même bâtiment, 9h30, le rôle des entreprises dans les projets de logiciels libres. Et merci.